France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Le Mexique, la musique et le monde, 22e chapitre, 1940, le Mexique, terre d'asile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Le Mexique a été de tout temps un pays refuge, en particulier pour de nombreux exilés latino-américains. À la fin des années 30, le président Cárdenas ouvre grand les portes à ceux qui débarquent d'Europe et surtout d'Espagne. Le réfugié le plus illustre vient cependant de Moscou, et c'est évidemment Trotsky, arrivé en 1936. Et cela a valu au Mexique de sévères représailles de l'Union soviétique qui a rompu ses relations diplomatiques durant 6 ans. Les communistes mexicains, avec à leur tête le peintre Alfredo Siqueiros, ont même organisé des manifestations à travers le pays en liaison avec le Politburo de Moscou, réclamant à grands cris, je cite, « l'exécution du traître Trotsky ». On a même impliqué Siqueiros dans l'organisation de son assassinat en 1940. Mais c'est surtout la victoire des franquistes à la fin de la guerre civile en Espagne qui préoccupe le président Cárdenas en 1939. Il organise alors avec une efficacité remarquable l'accueil des nombreux réfugiés venus de la péninsule. Parmi eux, un des premiers, quelqu'un qu'on a trop oublié, le compositeur Manuel Peña. Il est célèbre dans toute l'Amérique latine pour son fameux Paso Doble et pour ses œuvres lyriques, comme l'opéra comique Don Gil de Alcalá, qui a pour cadre la ville de Veracruz au XVIIIe siècle et qui a été créée à Mexico en 1938. Il en a écrit le livret et le public aime beaucoup sa musique, au lyrisme très touchant. Ataulfo Argenta à la tête de l'Orchestre Symphonique de Madrid dans le prélude de l'opéra comique Don Gil de Alcalá de Manuel Peña. Manuel Peña, qui est un véritable globe-trotteur de la musique. Il a passé son temps à diriger ses zarzuelas, en Espagne bien sûr, mais surtout dans les Amériques, de New York à La Havane et Mexico jusqu'à Buenos Aires et Montevideo. Alors que la guerre civile éclate, il part pour l'Amérique du Sud. En 1937, son opéra comique Don Gil de Alcalá est créé au Théâtre Monumental de Buenos Aires avec un succès énorme et l'année suivante, c'est Mexico qui l'accueille avec le même enthousiasme. 2 ans plus tard, Manuel Peña est de retour et cette fois dans la superbe ville de Cuernavaca, non loin de Mexico. On tourne un film inspiré de son Don Gil de Alcalá, intitulé « El Capitán Aventurero », le capitaine aventurier, et Peña est chargé d'en diriger la musique. Mais il ne verra pas le film, car il meurt subitement à Cuernavaca en 1939, à l'âge de 58 ans. Dans son opéra comique, Peña n'utilise à l'orchestre que des cordes et des harpes, la harpe étant l'instrument par excellence de la ville tropicale de Veracruz, où se déroule l'action au XVIIIe siècle. Au deuxième acte, les deux serviteurs qui sont les comiques de l'histoire, Chamaco l'Andalou et Maya l'Indienne, se lancent dans le tourbillon de la danse nationale, le jarabe, mais, comme l'annonce Chamaco, un nouveau jarabe, celui de Chihuahua, dans le nord du pays.
Vendras el domingo,
sí.
Y allí valsaremos,
pues.
El jarabe de Chihuahua que lo repuntearemos.
Veremos.
Lo baila la indiecita.
Tantito.
Pues va.
Va.
¡Yupi!
Cuando yo contigo me bailo el jarabe, a gloria me sabe tu talle coger.
Pues mira lo que haces pa' que no te pases del talle a otro sitio que no pueda ser.
Tú déjame que te agarre, que también yo se aprieta, ay, ay.
Después que nos cosen cara, ya me puedes agarrar.
Ay, zúmbale, que es tarde. Ay, zúmbale, no más. Partiremos el rico aguacate, la mesa al petate y un poquito más.
¡Ay, ay, ay!
¡Dale ya!
¡Yupi!
Cuando nos casemos para el bien limpito a la iglesia tendrás que lavarte los pies.
No sé qué me dices, esa impertinencia, pues no hace ni un año que me los lavé.
Yo estrenaré mi pollera y el hermoso color amañay.
Y yo un zarape que tengo, pero que aún no lo he comprado.
¡Ay, zúmbale, que es tarde! ¡Ay, zúmbale, no más! Partiremos el rico aguacate, la mesa al petate y un poquito más.
¡Yupi!
Partiremos el rico aguacate, la mesa al petate y un poquito más.
Le ténor Carlos Munguía et la mezzo-soprano Teresa Berganza avec l'orchestre de Madrid dirigé par Ataulfo Argenta. On est donc à l'époque des vice-rois dans la belle ville de Veracruz sur la mer Caraïbe. Le personnage principal, c'est la jeune Estrella, une métisse orpheline que son tuteur, le gouverneur de l'État, maintient recluse dans un couvent. Il a décidé de l'en sortir pour la marier à un vieux noble. Or, la jeune fille est amoureuse d'un soldat, Don Gil de Alcalá. Sur le chemin du couvent, le gouverneur et le vieux barbon tombent dans une embuscade. Par un hasard inouï, le jeune soldat chevauche dans les environs et fait fuir les bandits. Le gouverneur, très reconnaissant, lui promet une récompense substantielle. Et il annonce à la cantonade « Il faut fêter cela ». Avec un bon vin de la vieille Espagne que nous allons boire aujourd'hui en cette Nueva España en dansant des ségodilles.
Vino de la vieja España, que Nueva España hoy bebemos.
Por ella todos brindamos.
Sí, pues yo brindaré.
brindo.
Que el brindis de un sevillano por fuerza habrá ser olé. Tierra mía, yo de ya eso ve. Cuando me lo siento dentro de la vena, ya no hay quien se ponga delante de mí, yo de ya, porque sí. Me arranco por fandanguillo, por seguidilla y soleare. Y antes suena una guitarra, ya no hay más pena ni más pesar. Eso es. Aprende a quererla mejor. Y no que nos pida amores y cantares, pero algunas veces también pide guerra. Y este germinillo que nació en mi tierra. ¡Oh, vino generoso de la tierra mía! Y este
Les Séguedilles du gouverneur, chantées ici par le baryton Antonio Campo. Don Gil de Alcalá avoue bientôt à la jeune fille qu'il a monté de toutes pièces cette embuscade pour qu'ils puissent être ensemble tous les deux. Le gouverneur découvre bientôt le stratagème et Don Gil doit tout avouer, et cela devant le vice-roi en visite à Veracruz. Il est donc condamné à rejoindre les troupes qui tentent en vain de mater une rébellion d'Indiens. Mais par chance, le serviteur de Don Gil entend une conversation du gouverneur avec son confesseur, lors de laquelle il avoue qu'il a eu un fils illégitime avec une lavandière de Madrid. Le serviteur propose alors à Don Gil de se faire passer pour ce dernier, d'autant plus qu'il a passé son enfance au bord du fleuve Manzanares dans la capitale espagnole, et le tour est joué. Le gouverneur se confond en embrassade avec son fils retrouvé et lui offre la main de la jeune Estrella. Cela vaut bien une habanera, chantée en chœur, ce qui nous vaut un bel anachronisme, car ce chant venu de Cuba est apparu en réalité bien plus tard.
Oh,
La Habanera du deuxième acte de Don Gil de Alcalá de Manuel Penella, Lina Huarte soprano, le chœur et l'orchestre symphonique de Madrid étaient placés sous la direction de Ataulfo Argenta. L'un des premiers exilés espagnols à débarquer après la guerre civile au Mexique, c'est Rodolfo Halffter, qui va jouer un rôle important dans la vie musicale du pays. Républicain de la première heure, il était très proche de Manuel de Falla. Halffter appartient à une famille de musiciens d'origine prussienne et catalane. Durant la guerre civile, le gouvernement républicain lui confie la direction du Conseil central de la musique qui continuera jusqu'au bout à publier une revue musicale et à organiser des concerts. Avec son ami Gustavo Pitaluga, il orchestre des chants populaires qui, avec de nouvelles paroles, deviennent les chants de combat de l'armée républicaine, comme ici le chant d'une des plus terribles batailles, celle de l'Ebre, dont le delta débouche en Catalogne. Même si on détruit les ponts sur le fleuve, nous traverserons l'Ebre en barque ou en radeau.
Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingeniero. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingeniero.
La chanson espagnole de la bataille de l'Ebre, arrangée et dirigée ici par Rodolfo Halffter. C'est en 1939 que Halffter quitte son pays pour le Mexique avec dans ses bagages ses partitions les plus importantes. À son arrivée, il rencontre très vite la danseuse Anna Sokolov qui vient de fonder sa compagnie de danse La Paloma Azul. Il sera pour elle un soutien indéfectible et elle en fait son directeur artistique. Il a emmené dans ses valises le matériel d'orchestre du ballet Don Lindo de Almería, qu'on peut traduire par « Monsieur le Joli de la ville d'Almería », qu'il a composé sur un livret abracadabrant de son ami écrivain José Bergamín, lui aussi exilé cette année-là au Mexique. Il propose à Anna Sokolov de créer enfin le ballet dans son intégralité, et ce sera au théâtre Fabregas de la capitale le 9 janvier 1940, un théâtre où le ballet d'Anna a ses quartiers. Thank you. L'argument de Don Lindo de Almería est inspiré des caricatures andalouses très irrévérencieuses qui tournent gentiment en dérision, comme le décrit Halfter, les personnages typiques de l'Andalousie du début du XXe siècle. Et il cite « La bigote aussi noire qu'un corbeau et en deuil perpétuel, la jeune fille avec l'œillet dans les cheveux, l'inévitable couple de la garde civile toujours aussi godiche, les trois curés de la Bonne Aventure, plutôt délurés, l'intercesseur saint Antoine qui a l'habitude de prendre en pitié les jeunes filles qui n'ont pas de fiancé, le jeune et fringant torero entouré de ses picadors, les mulâtresses en peignoir à volant, et enfin le cacatoès, héritier de l'empire d'outre-mer hispanique, tout cela dilué dans des rythmes exotiques et andalous et dans des mélodies pleines de mélancolie et de langueurs séduisantes et voluptueuses. » Ces extraits du ballet Don Lindo de Almería, comme ici la cérémonie nuptiale de Rodolfo Halfter, sont interprétés par l'orchestre symphonique de Séville, dirigé par Antoni Rosmarba. Dans ce village andalou, il y a surtout le personnage principal, Don Lindo, qui rappelle un peu le barbon de l'opéra comique de Penella. C'est un vieux noble, sec, au teint olivâtre, qui tombe du ciel assis sur un petit cochonnet rose. Il est envoyé par saint Antoine pour se marier avec une jeune fille soi-disant bien esselée. Mais voilà, celle-ci vient de s'amouracher d'un jeune torero qui l'a séduite en jouant avec elle à la corrida. Face au torero, Don Lindo doit s'incliner et il se contraint à se séparer d'elle et à l'oublier. Il remonte donc au ciel, d'où il pourra ressusciter, dit-il, pour hanter les souvenirs de tous les habitants en chevauchant son petit cochonnet qui portera au flanc les stigmates de l'épée du torero.
«
Anthony Ross Marba dirigeait le ballet Don Lindo de Almeria de Rodolfo Halffter. En 1940, le Mexique exporte de plus en plus ses chansons à l'étranger et surtout aux États-Unis. On fredonne partout Frénésie et Perfidia, jusque dans l'Europe en guerre. Cette année-là, c'est une ancienne chanson, Mi Mariquita Linda, qui redevient soudain très à la mode. Et cela, grâce au clarinettiste de jazz, l'américain Artie Shaw, qui l'enregistre cette année-là. C'est juste 2 ans avant qu'il soit enrôlé dans la US Navy lors de l'engagement des États-Unis dans le conflit mondial. Dans la mémoire collective, plusieurs de ces mélodies mexicaines, surtout celles qu'interprétait l'orchestre de Glenn Miller, restent associées à la Deuxième Guerre mondiale. Mi mariquita linda, mon amour, je m'en vais dans des pays lointains et je ne reviendrai jamais. On écoute Artie Shaw.
Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
C'est en mars 1940 que Artie Shaw avait enregistré cette Mariquita Linda sur le 78 tours où il interprétait aussi le fameux Frenesi d'Alberto Dominguez. Au mois de juin, c'est la consternation aux États-Unis et encore plus au Mexique quand le maréchal Pétain prend le pouvoir dans une France en pleine débâcle. Le Mexique rompt très tôt avec le régime de Vichy et devient alors l'un des pays d'Amérique latine où se sont organisés immédiatement les cercles de résistance. En ces années sombres, Alberto Dominguez, après le succès inouï de ses chansons, compose un boléro insolite. Il dit en effet des choses graves, tout en gardant la légèreté d'une chanson sentimentale de cabaret. Il l'intitule « Humanidad »,« Humanité », et ce boléro connaît un écho inattendu auprès du public. « Humanité, écoute mon chant, où nous conduis-tu, vers quel destin, quand je te vois aujourd'hui couverte de sang ? Où va donc le monde ? Et voilà que nous deux, nous devons nous séparer aussi, fasse le ciel qu'on se revoie un jour. » Ce boléro trotte peut-être dans la tête des premiers mobilisables mexicains d'origine française qui embarquent le 12 juin 1940 pour Paris. En automne 1940, la compagnie de ballet d'Anna Sokolov va de succès en succès et l'Espagne est encore au cœur de sa programmation. Le 20 septembre est créé le dernier ballet qu'a composé Rodolfo Halffter, de nouveau sur un argument de l'écrivain José Bergamín, La Madrugada del Panadero, le petit matin du boulanger. Un ballet qui retrouve l'esprit du Tricorne de Manuel de Falla, mais beaucoup plus burlesque et caustique. La scène se passe à nouveau dans un village andalou. La jeune femme du boulanger est très volage. En l'absence de son époux, la jeune femme convie ses amants un soir dans la boulangerie. On songe évidemment à la femme du boulanger de Marcel Pagnol, très populaire au Mexique et classée aux États-Unis en 1940 comme un des meilleurs films de l'année. Les moments les plus beaux du ballet sont les atmosphères mélancoliques ou rêveuses, comme le nocturne qui évoque ce que Lorca appelait la nuit bleue des campagnes andalouses. Alors que les amants sont au complet, le boulanger débarque à l'improviste. La boulangère les cache dans des sacs de farine. À minuit, ceux-ci tentent de fuir. Le boulanger les surprend et pense que ce sont de vrais fantômes. La boulangère ne peut faire autrement que de les houspiller et de les menacer de son balai, et ils terminent dans le four à pain. Quand l'aube se lève, ils s'enfuient du four qui commence à chauffer, et les clients les trouvent dorés juste à point. Tout le village a compris ce qui s'était passé, et c'est sur l'allégresse générale que s'achève le ballet. Ces extraits du ballet La Madrugada del Panadero, Le Petit Matin du Boulanger de Rodolfo Halfter, étaient interprétés par l'Orchestre Philharmonique de la Ville de Mexico, dirigé par Luis Herrera de la Fuente. En 1940, le président Cárdenas fait des mariachis l'emblème de la musique populaire citadine au Mexique. Il a levé l'interdiction qui leur était faite de jouer dans les rues, et a ordonné personnellement au chef de la police de ne plus les déloger. Le président a d'ailleurs choisi des orchestres de mariachis pour l'accompagner durant sa campagne électorale en automne, avec, bien sûr, leurs somptueux costumes de charros, l'élite des campagnes et des cavaliers, courte veste, pantalon étroit et large sombrero.
De mi vida.
les mariachis reyes del aserradero. Alors que plusieurs franco-mexicains mobilisés voguent vers la France, plusieurs réfugiés ont quitté Paris pour le Mexique. Parmi eux, le professeur d'anthropologie Paul Rivet, grand résistant recherché par la Gestapo, il parvient à fuir la France en février 1941. Il trouve d'abord refuge en Colombie, où il fonde l'Institut colombien d'ethnologie et crée un musée à Bogota, puis c'est le Mexique, où en 1943, il est nommé dans la capitale attaché culturel de la France combattante pour l'Amérique latine. Le poète surréaliste français Benjamin Perret, quant à lui, s'est engagé en Espagne dans les brigades internationales durant la guerre civile et il s'est marié avec la peintre Remedios Varo. Emprisonné par les nazis à son retour en France, il parvient à fuir vers le Mexique avec son épouse en 1941. Il y reste de 1942 à 1948 dans des conditions financières difficiles, mais il se passionne pour l'art maya et les mythes et légendes des sociétés précolombiennes. Il reviendra en France en 1947 et Remedios Varo résidera définitivement au Mexique. « Nul doute, écrit Benjamin Perret, que le grand serpent à plumes, là d'une migration sans espoir, ne revienne vers son peuple aux yeux de cratères, les mains pleines de fleurs, à champs de cristal arrachés à la nuit. » Gustavo Martín, violoncelle et Antonio Santoyo, piano, dans le deuxième mouvement de la sonate pour violoncelle et piano de Samuel Seaman, né à Mexico en 1956, professeur à la Juilliard School de New York. Il est très proche de l'orchestre des jeunes Mexicains défavorisés, intitulé l'Orchestre de l'Espoir Aztèque. En 1940, le pianiste et compositeur Agustín Lara a retrouvé son émission, La Hora Íntima con Lara, si écoutée, à la radio XEW. Avec son épouse, il décide de partir à New York. Il travaille avec une nouvelle collaboratrice dont la voix lui plaît beaucoup, Chelo Flores, qui vient de Chihuahua, dans le nord, à la frontière avec les États-Unis. Il compose alors pour elle une chanson avec laquelle il dit au revoir à son pays avant de rejoindre Manhattan. Yamevoy, je m'en vais. La carrière de Chelo Flores est ainsi lancée.
Me voy, me alejaré llorando, me alejaré pensando ya no volverte a ver. Ya me voy, pero antes de partir quiero besar tus ojos, quiero besarlos mucho, por si voy a morir. Yo sé que inútilmente te he pedido que me quieras, que desgraciadamente no he vivido en tu memoria. Ya me voy, pero antes de marcharme quiero decirte todo lo que tú eres para mí, que nunca, nunca, nunca te arrancaré de mi alma, y que toda la vida estarás en mi mente, prisionero hasta el fin. Mejor te dejo. Yo sé que inútilmente te he pedido que me quieras, que desgraciadamente no he vivido memoria. Ya me voy, pero antes de marcharme quiero decirte todo lo que tú eres para mí, que nunca, nunca, nunca te arrancaré de mi alma, y que toda la vida estarás en mi mente, prisionero hasta el fin.
C'est avec ce chant d'au revoir au Mexique de Agustín Lara que nous nous quittons aujourd'hui, pour se donner rendez-vous bien évidemment dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission réalisée par Béatrice Trichet, une émission disponible en podcast.
À réécouter sur francemusique.fr.